C'est à vous, cher Antoine.
Merci Arnaud Laporte. Le Festival de Cannes annoncera sa sélection dans 9 jours, ce sera le 14 avril, et disent-ils en attendant de menus informations. On a ainsi appris jeudi que pour la troisième fois, c'est un film de Woody Allen qui ouvrira le festival le mercredi 11 mai. Il sortira le même jour en France. Café Society, dont la distribution réunit Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey et Steve Carell, succédera ainsi à Hollywood Ending en 2002 et Midnight in Paris en 2011. La présence de ce film à cette position est pourtant une révolution, estime Thomas Sautinel dans Le Monde. C'est la première fois que la sélection officielle du Festival de Cannes fait une place, et pas n'importe laquelle, à un film financé par et destiné à une plateforme de visionnage en ligne, en l'occurrence Amazon. En France, où Amazon Prime, la plateforme du géant de la vente en ligne, n'est pas accessible, Café Society sera distribué par Mars Film, l'une des plus grosses sociétés indépendantes du secteur, et suivra ensuite les étapes de la chronologie des médias. Aux États-Unis, où les films de Woody Allen ont récemment connu de jolis succès en salle, avec 56 millions de dollars, soit 50 millions d'euros de recettes, Midnight in Paris a battu le vieux record de Anna et ses sœurs, autre film du cinéaste présenté à Cannes. On observera avec attention le parcours de Café Society. Contrairement à Netflix, qui pratique la politique du day and date, consistant à sortir simultanément les films en salle et en ligne, ce fut le cas de Beast of No Nation, sélectionné à Venise, Amazon s'est engagé à laisser ses longs métrages vivre leur vie au cinéma. Le Day and Date de Netflix souffre toutefois quelques exceptions. Le Petit Prince se retrouve ainsi privé de cinéma aux États-Unis, nous apprend une brève de la Croix. L'adaptation cinématographique très libre du livre d'Antoine de Saint-Exupéry devait sortir aux États-Unis le 18 mars, mais son distributeur Paramount a annulé à la dernière minute son exploitation sans donner d'explication. Selon plusieurs médias américains, le film de Mark Osborne, César du meilleur long métrage d'animation, ne sortira pas en salle car c'est Netflix qui le diffusera bientôt sur sa plateforme de vidéo à la demande. Et ce sera une exception car Netflix n'aime plus le cinéma français, titré le site Znet, cité par une brève de Libération qui nous apprend que le service de VOD a réduit son catalogue hexagonal de 200 à 84 films français, une offre anecdotique qui uniformise les contenus et valorise les créations originales produites par Netflix. Comment faire alors pour voir des films français quand on est aux États-Unis? Bon, déjà, il faut aller à New York. Les salles d'art et essai new-yorkaises ne connaissent pas la crise, nous assure Gaëtan Mathieu, qui est parti en reportage pour Télérama au Métrographe. Début mars, le cinéma d'art et d'essai, inauguré quelques jours auparavant devant l'Intelligentsia new-yorkaise, a débuté avec succès sa rétrospective Jean Eustache, La maman et la putain affichée complet. Peu de villes dans le monde sont à même de remplir une salle de 175 places pour une projection d'un film en noir et blanc de Jean Eustache datant de 1973. New York est l'une d'entre elles. Située dans le quartier très vivant du Lower East Side, le lieu comprend deux salles de cinéma, un comptoir de confiserie quand même, auxquelles s'ajouteront mi-avril une librairie centrée sur le cinéma, deux bars et un restaurant. L'endroit a été conçu à l'image des studios hollywoodiens de la MGM et de Paramount des années 1920, qui étaient des villes dans la ville avec leurs hangars pour les tournages, mais aussi leurs restaurants, cafés, coiffeurs ou encore leurs bureaux de poste. Les studios avaient créé tout un environnement autour du cinéma où l'on écrivait, tournait et parlait des films. Je peux tout à fait imaginer des scénaristes s'asseoir au bar du Métrographe et écrire leur scénario, explique Alexander Holk, son fondateur. Les salles ont été conçues afin d'être utilisées par les réalisateurs qui souhaitent travailler en journée sur le premier montage de leur long métrage. Le milieu du cinéma a déjà répondu présent lors de la soirée d'ouverture du Métrographe où se croisaient entre autres Sofia Coppola, Jim Jarmusch, Darren Aronofsky, Noah Baumbach et Dustin Hoffman. C'est un lieu pour les cinéastes et les fans de cinéma, résume son fondateur. La programmation est on ne peut plus variée, avec la diffusion cette même semaine de trois documentaires de Frédéric Wiseman, de Boarding Gate d'Olivier Assayas et du court-métrage de Jean Eustache, Le Cochon, projeté en 16 mm et sans sous-titres. L'ouverture du cinéma avec une rétrospective Jean Eustache n'a rien du hasard. Jean Eustache fait partie de cette génération de cinéastes qui allaient à la cinémathèque pour voir des films du monde entier des décennies précédentes, explique la programmatrice Alisa Ma, une ancienne des festivals de Toronto et de Sundance. Ces films reflètent son expérience de spectateur. Nous voulons que le métro cinématographe, soit une cinémathèque qui inspire des cinéastes. Peut-être auront-ils une révélation. Après avoir vu La Maman et la Putain, reste à savoir si une ville comme New York peut apprécier le cinéma français au-delà de la nouvelle vague. Lors de son premier week-end, le métrographe a projeté Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard à 23h devant une salle pleine de jeunes couples. Si les films de la nouvelle vague sont perpétuellement projetés dans les salles d'art et d'essai des États-Unis, le métrographe espère désormais amener la nouvelle génération vers un cinéma français plus contemporain. Et ça, c'est déjà moins gagné. Mi-avril, Vincent Lindon présentera au métrographe une rétrospective de sa carrière à l'occasion de la sortie américaine de La Loi du Marché. Vincent est une star en France, il y est omniprésent, mais aux États-Unis, seuls les fans de Claire Denis le connaissent, précise Alizama. C'est bien la peine de remporter un prix d'interprétation à Cannes, tiens.